Viens traiter en moi le péché. Viens me libérer des ténèbres.
La Fondation Adonai Iri House vous invite à suivre l'émission Citoyens du ciel et de la terre du pasteur Ghislain Afolabi Agbede.
Et le monde veut me crucifier.
Pour soutenir les émissions radiophoniques de la Fondation Adonai Iri House, Bank of Africa Benin, nom du compte, Association Adonai Iri House, Code Banque BJ 061, Code Guichet 01001, numéro du compte 00119 28 95 00 05, Clérib 07, Code Swift Afri BJ BJ XXX.
Mon âme soupire après toi. Viens me délivrer des angoisses. Viens réaliser.
Que la grâce et le shalom vous soient accordés de la part de Dieu le Père, de la part de notre Seigneur Jésus-Christ et de la part de notre Consolateur, le Saint-Esprit. Précédemment, nous avons vu Marie à côté de la croix de son Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Dieu incarné qu'elle a eu à porter et qu'elle va prier plus tard dans la chambre haute avec les disciples. Et c'est à l'un de ses disciples que Jésus-Christ l'a confié et non à ses frères. Auditrices et auditeurs, bienvenue à notre émission Citoyens du ciel et de la terre de ce jour qui mettra la lumière sur la vie normale, conjugale et familiale de Marie. Plusieurs péricopes bibliques mentionnent la mère, les frères et les sœurs de Jésus-Christ, notifiant ainsi qu'après la naissance du Dieu incarné, Marie a eu d'autres enfants avec Joseph, son époux. L'évangéliste Marc a eu le mérite de citer quelques noms des frères, quelques noms des adelphoïs de Jésus-Christ. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Marc chapitre 6, verset 3. Quatre frères, quatre adelphoïs de Jésus-Christ ont été mentionnés par l'évangéliste, qui ne donne pas la liste des noms des sœurs. Et cela rend dans la pensée de la culture juive qui n'accordait pas d'importance à la femme. Marie a donc eu beaucoup d'enfants après la naissance de Jésus-Christ avec le charpentier de Nazareth. L'apôtre Paul, quant à lui, après sa conversion, signale qu'il a rencontré Jacques, l'auteur de l'épître qui porte son nom. Il dit en effet dans Galates chapitre 1 verset 19, « Mais je n'ai vu aucun autre des apôtres si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. » Marie a donc une vie de couple normale avec Joseph et elle a honoré ses engagements conjugaux. De même, elle a fondé avec son époux une famille monogamique. Selon la théologie de Tertullien, père de l'Église, la mère du Christ était vierge. Elle devait connaître un seul époux après son enfantement. Marie a eu une vie de famille normale et elle a eu à éduquer ensemble avec Joseph, son époux, les enfants qu'ils ont eus. Aujourd'hui, avec le taux élevé de divorce dans notre société, des familles monoparentales, des situations d'enfants abandonnés après accouchement et qui font l'objet de faits divers dans la presse, des situations d'irresponsabilité parentale et des autres acteurs de la chaîne de formation et d'éducation des enfants, Marie et Joseph nous montrent l'exemple de ce que devrait être une famille stable en vue de la paix sociale et de la construction de nos nations. Aujourd'hui, la femme n'est plus une vigne féconde à l'intérieur de la maison et les enfants ne sont plus comme des plants d'olivier autour de la table, mais ils sont dans les ghettos, sous les ponts, en tant qu'esclaves des drogues et de ses corollaires. Le tissu familial est en lambeaux et en rayons. Or, pour le développement de nos nations africaines, nous avons besoin impérativement de familles stables. C'est avec tristesse que nous constatons qu'il y a trop de divorces et trop de familles monoparentales aujourd'hui. Cet état de choses perturbe le shalom socio-culturel et politico-économique. En effet, les cas sociaux étant très légions. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes couples n'arrivent plus à traverser la barrière de la crise du mariage et optent très facilement soit pour le divorce, soit pour la polygamie. Ils croient ainsi échapper à cette barrière qui, du reste, les rattrape en chemin. Et ces hommes n'arrivent pas également, avec la deuxième épouse, à s'en sortir. Or, il fallait faire preuve de maîtrise de soi, de dialogue, de prière et de détermination pour aller en avant, ensemble, pour détruire la barrière et continuer son chemin de mariage, ensemble avec le partenaire. Il est très important aujourd'hui de revoir le processus de la formation au métier de parent dans le cadre de la préparation des fiancés pour la vie conjugale. Il est vrai que Marie a conçu le Christ en étant vierge, mais on doit avoir le courage de reconnaître, à l'instar du Père de l'Église, Tertullien l'Africain, qui a eu la paternité du concept du mystère de la Sainte Trinité, que la virginité physique de Marie a perpétuellement disparu ce jour où elle donna naissance par voie basse au conducteur d'Israël dans la ville de David à Bethléem et où les anges en informaient les bergers dans la nuit. Les évangiles ne donnent aucune marque d'un accouchement naturel sans perte de virginité. Tertullien de Carthage en Tunisie s'étant engagé dans la polémique contre les Valentiniens qui pensaient que le Christ n'a rien reçu de Marie, il leur affirma que Jésus a bel et bien pris chair en Marie. Et conformément à sa pensée théologique, Tertullien affirme que vierge dans la conception de son fils, Marie ne l'est plus dans son enfantement. Sa virginité, quoi qu'on puisse dire à l'encontre, s'arrête à l'instant où elle met au jour un fils. De même, Tertullien affirme que si elle a conçu vierge, elle est devenue femme par l'enfantement. Car elle est devenue femme nécessairement, puisque son corps a livré passage. Cela ne fait point de différence que la vigueur de l'homme soit entrée en elle ou qu'elle en est sortie. En poursuivant sa réflexion, le père de l'Église Tertullien affirma que Jésus-Christ a ouvert la matrice, puisqu'il l'a trouvée close quand elle lui a livré passage. Celle qui a d'autant plus livré passage qu'elle était réellement close. Plutôt que de dire qu'elle est vierge, il faut mieux dire évidemment qu'elle ne l'est pas, puisqu'elle est devenue mère directement avant d'être femme. Faut-il encore en disputer, demande le père de l'Église. Voici la raison qui a fait dire à l'apôtre que le Fils de Dieu était né, non pas d'une vierge, mais d'une femme. Il a reconnu qu'elle avait eu l'expérience d'une femme. Sa matrice a livré passage. Quant au théologien allemand du XXe siècle, Jürgen Moltmann, le père de la théologie de l'espérance, il déclare ce qui suit, c'est la Marie réelle qui doit être présentée. Elle ne doit pas être déformée pour connaître la Marie réelle, c'est tout le témoignage biblique qui doit être pris en considération. C'est donc sur la base scripturaire, comme cela a été dit tout le long de cette série sur Marie, que nous nous focalisons dans la réflexion mariale pour présenter la doctrine sur Marie. Il est nécessaire d'avoir un esprit de détermination, d'humilité pour accepter, à la lumière de la parole de Dieu, ce qu'elle nous enseigne, pour avoir la véritable délivrance à travers la Bible. Car si le Christ nous a franchis, nous serons réellement libérés. Les chrétiens, particulièrement les serviteurs de Dieu, qui sont appelés à conduire le troupeau que le Seigneur leur a confié, doivent prendre en considération l'avertissement de l'apôtre Jacques, fils de Marie et de Joseph et petit frère de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ne soyez pas nombreux à vouloir être enseignants, mes frères, car vous savez que nous subirons un jugement plus sévère. Jacques au chapitre 3, verset 1er. Marie a connu les douleurs de l'enfantement. Marie n'a pas accouché par césarienne. La question théologique qui se pose et qui fera l'objet de l'une de nos prochaines émissions est de savoir si la femme qui accouche par césarienne a réellement connu les douleurs de l'enfantement, puisqu'elle n'a pas accouché par voie basse. Ou s'agit-il tout simplement des douleurs post-accouchement? Au total, une présentation systématique aux chrétiens de ce qu'a été la compréhension de Marie, sa mission, sa place et son rôle dans l'Église du Christ durant l'histoire du christianisme s'avère nécessaire. Ceci afin qu'elle soit replacée au sein des membres de l'Église, comme l'ont fortement souhaité les réformateurs de l'Église du XVIe siècle. C'est pourquoi il est bon de rappeler à toute l'Église le cri et le slogan des réformateurs qui ne veulent s'en tenir qu'à l'Écriture seule. Soli Deo Gloria, à Dieu seul la gloire. Sola Gratia, seule la grâce. Solus Christus, seul le Christ, sola fidei, seule la foi, sola scriptura, seule l'écriture. La Bible présente Marie à l'Église comme l'une des servantes du Seigneur à qui une grâce a été accordée pour porter en son sein la deuxième personne de la Trinité. Dieu utilise les choses faibles, des instruments faillibles pour réaliser de grandes choses. Tel fut le cas de Marie, mère de Jésus-Christ et épouse de Joseph le charpentier. Marie fait donc partie intégrante de ces êtres faillibles. Marie laisse à l'Église de ce siècle présent son exemple d'obéissance, de femme de foi, de soumission à la parole de Dieu, de moralité vertueuse, d'intégrité, de chasteté, de vie conjugale normale. Tout ceci est conforme à la parole de Dieu. L'Écriture sainte, qui est la seule norme reconnue en matière d'autorité, affirme que Dieu a confié à sa servante Marie la mission de porter le Dieu incarné et de l'élever dans son contexte familial et conjugal avec Joseph, son époux. Cette vérité biblique de tous les temps ne doit pas être superficiellement évoquée. Il n'y a rien qui puisse dépasser la relation avec le Christ qui est la tête de l'Église, de son corps dont Marie n'est qu'un membre. L'Église se comprend à partir du Christ et Marie est comprise comme un membre de l'Église. C'est le lieu de rappeler une fois encore que le salut se trouve exclusivement dans l'acceptation du sacrifice du Christ à la croix. Au vu de tout ce qui a été dit précédemment, l'Église tout entière, en toute honnêteté spirituelle, morale et intellectuelle, se doit de tenir compte de toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, dans la compréhension du choix de Marie par Dieu en vue de l'incarnation de la deuxième personne de la Trinité. Il s'avère nécessaire que nous, bergers du troupeau du Seigneur, nous fassions preuve de fidélité et d'intégrité en face de la parole comme le recommande l'apôtre Paul. L'exhortation de Paul à Timothée doit être prise en considération. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat du Christ Jésus. L'enseignement biblique doit être centré sur le Christ, car comme l'affirme Alistair M. Gratt, le fait que Jésus-Christ ne puisse être connu que par le récit scripturaire souligne le caractère central et indispensable de l'Écriture, aussi bien pour le théologien que pour le simple croyant. C'est sur cette déclaration que nous mettons fin à cette série doctrinale sur Marie, la Christotokos, celle qui accouche du Christ et qui a été témoin oculaire des terribles événements de Golgotha dans cet après-midi où le voile du temple se déchira. Que la grâce et le shalom vous soient accordés. De la part de Dieu le Père, de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, et de la part de notre Consolateur le Saint-Esprit, nous vous remercions pour votre écoute, et à la prochaine, si Jésus-Christ ne revenait pas.
Viens me libérer des ténèbres.
Vous venez de suivre l'émission Citoyens du ciel et de la terre du pasteur Ghislain Afolabi Agbede.
M'enlacer.
Pour tout renseignement, Fondation Adonai Iri House 01 BP 27 24 Cotonou Bénin. Numéro WhatsApp 00 229 97 11 94 77. Email info@adonaiiri.org. info@adonaiyireh.org.
Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi.